Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc la prédication d'aujourd'hui, je voulais l'appeler « Ce qu'est la vraie vie des gens ?» La vraie vie. Et ça fait référence à une formation que j'ai faite dans l'informatique. Et alors, on avait toujours des cas d'école et on avait des bases écoles où on faisait nos entraînements d'informatique, de comptabilité, de toutes sortes. Et alors, les formateurs disaient souvent, et dans la vraie vie, ça veut dire quand vous serez de nouveau à votre poste de travail, en train de travailler, ça va se passer comme ça. Alors, chaque fois, ils disaient, voilà, ce qu'on apprend à l'école, c'est comme ça, mais dans la vraie vie, alors, et moi, je me suis dit, souvent, c'est un peu comme ça. On a toutes sortes de vies, on a plusieurs vies dans le sens de notre existence terrestre, hein. On ne vit pas plusieurs fois, je crois pas à la réincarnation, mais on vit de plusieurs façons différentes, et on a donc notre vie personnelle, familiale, professionnelle et autres, et des fois on a des choses où ce n'est pas notre vraie vie. Alors il faut la découvrir, quelle est cette vraie vie, quelle est la réalité du quotidien, ce que vous vivez vraiment. Et donc j'ai pensé que ça serait intéressant aussi, par la suite encore, de voir certaines biographies de gens qui ont été extraordinaires. Nous avons cet excellent livre des pionniers de la foi, où sur 3-4 pages, vous avez chaque fois des gens qui ont réalisé des choses, et vraiment moi je suis émerveillé de voir ce qu'une personne qui a la vision, qui a la foi peut réaliser. Et donc, mais il y a aussi des gens autour de nous, ça peut être dans le domaine... même des acteurs ou des stars ou des hommes politiques. Il y a des gens qui sont des gens de qualité, qui apportent quelque chose dans notre société, qui influencent pour le bien. Et donc des gens, des fois, qui sont admirés ou enviés ou toutes sortes. Et donc j'ai pensé, par rapport à la mort cette semaine de Steve Jobs, de vous parler de ce qu'est la vraie vie des gens, et en particulier de cet homme qui s'appelait Steve Jobs. En fait, quelqu'un m'a envoyé un message et ça m'a interpellé la façon dont c'était écrit au début. Il dit « Ceci est le message que Steve Jobs a laissé pour vous sur la vie, la mort et les raisons de son succès. » Et je me suis dit « C'est intéressant parce que nous avons le message que Dieu nous a laissé pour la vie, la mort et les raisons de son succès. » Et c'est la parole de Dieu tout entière pour notre vie, pour notre mort et les raisons de son succès. Alors j'aimerais bien partager avec vous ce message de Steve Jobs, et nous allons permettre au Seigneur, au travers de sa parole aussi, de nous instruire par là. Vous vous rappelez que dans 1 Corinthiens 10, 11, il est dit « Toutes ces choses leur sont arrivées », en parlant des personnages de l'Ancien Testament, « afin de nous servir d'exemple ». Que nous ne fassions pas certaines choses qu'ils ont faites. Ou, moi je rajoute, ou que nous imitions par la foi ceux qui nous ont précédés. Donc il est important que nous puissions voir ces choses. Qu'est-ce que cette personne a à m'apprendre? Peut-être vous dites, mais je ne le connais pas, et de toute façon maintenant il est mort, et qu'est-ce que ça change dans ma vie? Oui, mais il a influencé la vie de millions et de millions de personnes. Si ce n'est... a eu un impact dans la vie de toute l'humanité actuellement. Vous allez voir dans un instant. Donc, c'est un discours qu'il a prononcé dans une remise de diplôme universitaire. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, un peu le blabla habituel du début, hein. C'est un honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui, d'assister à une remise de diplôme dans une des universités les plus prestigieuses du monde. Et il dit, je n'ai jamais terminé mes études supérieures. À vrai dire, je n'ai même jamais été témoin d'une remise de diplôme dans une université. Je veux vous faire partager aujourd'hui 3 expériences qui ont marqué ma carrière. C'est tout. Rien d'extraordinaire, juste 3 expériences. Et donc, je l'ai découpé en petits morceaux et vous verrez après qui c'était, ce qu'il a fait. 3 expériences. En fait, les 3 expériences, on pourrait dire que ce sont des expériences relativement négatives. Vous allez le voir dans un instant. La première expérience, c'est Pourquoi j'ai eu raison de laisser tomber l'université? Donc, c'est la première expérience qu'il veut partager avec des gens qui viennent de finir leur cycle universitaire à une remise de diplôme où c'est important pour eux parce que c'est peut-être le départ maintenant pour eux dans leur vie professionnelle ou dans leur carrière, et il est en train de leur dire pourquoi c'est important pour lui et qu'il a eu raison de ne pas étudier comme les autres. Et je me suis dit, là encore, on ne peut pas dire qu'une chose négative soit une bonne chose parce que par la suite, il en est sorti quelque chose. Vous me suivez? Beaucoup de gens disent, prenez vraiment l'exemple classique parce que je l'avais entendu. Je me suis cassé une jambe, je me suis retrouvé à l'hôpital, là j'ai eu le temps de lire ma Bible. Et j'ai pu rendre témoignage à mon voisin de chambre. Donc, la démonstration c'est une bonne chose que je me sois cassé une jambe, vous voyez? Non, se casser une jambe est toujours une mauvaise chose, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Par contre, ce que nous en faisons, les expériences qu'on peut vivre à la suite de ça, ou nos réactions, nos façons de rebondir sur quelque chose de négatif, ça peut être une bonne chose. Mais la chose en soi n'est jamais bonne. On ne peut pas non plus dire Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a orchestré exprès pour me bénir. Dieu, par exemple, il ne rend pas les gens malades, il les envoie pas exprès en prison ou je ne sais quoi. Donc, première chose, pourquoi j'ai eu raison de laisser tomber l'université? La première concerne les incidences imprévues. Il dit, j'ai abandonné mes études, bon, on rentre pas dans les détails, c'est le Reed College, au bout de 6 mois. Mais j'y suis resté auditeur libre pendant 18 mois avant de laisser tomber définitivement. Un auditeur libre, ben on peut assister au cours, mais on ne pourra jamais passer les examens ni rien du tout. Pourquoi je n'ai pas poursuivi? Tout a commencé avant ma naissance. Ah, c'est pareil pour nous, hein, pour tout le monde. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle avait choisi de me confier à des parents adoptifs. Elle tenait à me voir entrer dans une famille de diplômés universitaires et tout avait été prévu pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que lorsque je fis mon apparition, ils décidèrent au dernier moment qu'ils préféraient avoir une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d'attente, reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit. Nous avons un petit garçon qui n'était pas prévu. Le voulez-vous ? Ils répondirent, bien sûr. Ma mère biologique découvrit alors que ma mère adoptive n'avait jamais eu le moindre diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais terminé ses études secondaires. Elle refusa de signer les documents définitifs d'adoption et il ne s'y résolut que quelques mois plus tard quand mes parents lui promirent que j'irais à l'université. 17 ans plus tard, j'entrai donc à l'université. Mais j'avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford. Et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je n'en voyais toujours pas la justification et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et je n'imaginais pas comment l'université pouvait m'aider à trouver ma voie. J'étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné leur vie durant et je décidais de laisser tomber. Donc, première réflexion, tout d'abord concernant l'adoption. Nous avions connu le témoignage d'un homme qui il avait été adopté, c'était à la fin de après la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait beaucoup d'orphelins, et donc et il était là dans cet endroit où on avait les bébés qui étaient orphelins, et des parents sont passés par là, et ont dit « nous voulons ce bébé ». Et donc on leur a dit mais il n'est pas en très bonne santé, il est tout chétif, et on leur a dit bon écoutez, on va vous donner cet enfant, mais si ça ne va pas, vous le ramenez, on vous en donnera un autre comme une marchandise. Et cet homme par la suite est devenu vraiment un homme de Dieu qui enseignait, qui prêchait et tout, et il a toujours utilisé la parole de Dieu pour dire vous n'avez pas été choisi par vos parents. Vous êtes né naturellement et vous avez les parents que vous avez et eux, ils ont eu l'enfant qu'ils ont eu. Par contre, il a dit, moi j'ai été choisi. Mes parents ont dit, c'est ce bébé que nous voulons. Et il a dit, c'est à l'image de Dieu. Dieu nous a adoptés. Il a dit, c'est lui, c'est elle, c'est eux que je veux pour mes enfants adoptifs. Vous n'êtes pas nés par hasard ou par accident dans la famille de Dieu. Vous êtes nés par le désir de Dieu de vous avoir dans sa famille. Et je trouvais que ça formidable comme réaction. Donc même quand on a un passé qui a mal démarré avec des problèmes de une jeune maman célibataire et des parents biologiques et des parents adoptifs, mais on peut quand même réussir dans la vie et rebondir sur tout cela avec l'aide de Dieu qui nous fait comprendre que notre vie a un sens. Et remarquez bien maintenant que ce qu'il dit est très intéressant, je trouve. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et on se rend compte aussi, les études, la préparation pour la vie par la suite est difficile quand vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire. Par contre, quand vous avez un objectif dans la vie, quand vous voulez réaliser quelque chose, tout à coup, les choses prennent du sens et vous avez envie d'apprendre. Vous êtes motivé. Donc, il faut que vous soyez motivé pour quelque chose. Même si vous n'en êtes plus au stade maintenant des études, pendant toute notre vie, on dit l'école de la vie, on apprend encore des choses. Si vous n'avez aucun but et aucune vision, vous ne voulez pas apprendre non plus. Pourquoi faire? Pourquoi perdre son temps? C'est ainsi que les gens ferment peu à peu leur univers, il devient de plus en plus étroit, et alors et plus rien ne se passe. Mais il nous a dit, mon peuple périt par manque de révélation, une autre parole dit par manque de vision. On périt, peu à peu on dépérit, on meurt quand on a plus de vision. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. C'est cette façon surnaturelle que Dieu communique avec nous, êtres humains, qui sommes des personnes qui pouvons influencer l'univers et nous enrichir de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes plus que destinés à vivre comme des animaux, simplement survivre, boire, manger, s'amuser, il y a plus que ça. Et donc, il était à ce stade, on ne peut pas trouver le sens de sa vie à l'université, même en voulant décrocher des super diplômes. Ce n'est pas là qu'on le trouve. Le sens de notre vie, on le trouve auprès de Dieu. Le sens de notre vie, c'est quand on a rencontré Jésus. Tout le reste est péché. Il nous a dit, le péché, c'est parce qu'ils ne croient pas en moi. Les gens pensent qu'ils vont en enfer parce qu'ils ont volé, ou triché, ou menti, ou tué, ou que sais-je encore, mais ce n'est pas vrai. La seule raison pour laquelle les gens vont en enfer, c'est qu'ils refusent Jésus en tant que sauveur. C'est la seule, absolument seule raison. Les autres péchés ne tiennent plus, puisque Jésus a donné sa vie pour ça. Donc, il faut qu'on réalise, notre vie prend seulement son sens en lui. Et donc, il était là en train de dépenser cet argent que ses parents, qui étaient modestes, avaient épargné toute leur vie. Et il décide de laisser tomber. Alors, c'est plutôt brutal aussi comme réaction. Une décision plutôt risquée. Mais rétrospectivement, c'est un des meilleurs choix que j'ai jamais fait. Dès le moment où je renonçais, j'abandonnais les matières obligatoires qui m'ennuyaient pour suivre les cours qui m'intéressaient. Donc là, il y a quelque chose quand même d'intéressant qui se produit en lui. Nous sommes dans un système où souvent on apprend des tas de choses où on ne voit pas le but. Peut-être ce but est caché pour quelque chose qui sera utile plus tard. Et ça, l'étudiant, l'enfant, même le disciple ne le comprend pas toujours. Pourquoi je dois apprendre ceci et cela? Pourquoi je dois apprendre la discipline? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir des résultats faciles et rapides? Mais parce que dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Donc, il fait ce choix. Et tout n'était pas rose. Je n'avais pas de chambre dans un foyer. Je dormais à même le sol chez des amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer le dépôt, ou on dirait nous la consigne, de 5 cents et acheter de quoi manger. Tous les dimanches soirs, je faisais 10 km à pied pour traverser la ville et m'offrir un bon repas au temple de Hare Krishna. Un régal. Donc là encore, on est prêt à aller n'importe où juste pour manger. Et les sectes comme la Hare Krishna, ils ont bien compris comment appâter les gens. Et je pensais aussi, quand on dit qu'on est prêt des fois à n'importe quoi, apprendre des choses ou faire des choses qu'on n'en voit pas le sens. Jim Caseman disait qu'au début, quand il s'est inscrit à Réma, il n'était pas du tout d'accord avec certaines choses qui étaient enseignées. Et il trouvait même, au bout d'un moment, il trouvait que c'était une secte et qu'ils enseignaient des fausses doctrines. Mais il dit, parce qu'il avait payé pour toute l'année, il voulait suivre tous les cours jusqu'au bout. Mais là, je pense que ça prend du sens aussi de dire pourquoi je devrais gaspiller ma vie à faire des choses inutiles ou secondaires. C'est intéressant et courageux de sa part. Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, des fois, il faut qu'on comprenne que même si on n'en voit pas un avantage ou un intérêt immédiat, il nous faut faire certaines choses. Et d'un autre côté, il ne faut pas persévérer dans des choses inutiles, sachant qu'on n'a qu'une vie à vivre, et que peut-être il faudrait qu'on focalise plus qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je peux vraiment apprendre qui sera en rapport avec ce que je veux faire de ma vie, ou ce que je veux exercer comme ministère, etc. Donc c'est important de savoir trier. Il a fait un choix, il a pris une décision. Voyez comment il survivait. Et ce que je découvris, alors guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable à l'avenir. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Reed College dispensait probablement alors le meilleur enseignement de typographie de tout le pays. Dans le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était parfaitement calligraphié. C'est ce que c'est la calligraphie. Donc c'est l'art de faire de belles lettres. Tout cet art a beaucoup évolué maintenant. Parce que dans nos simples ordinateurs personnels, nous avons des polices de caractère, je ne sais pas combien, des dizaines de possibilités d'écrire les lettres. Et autrefois, il y a des milliers ou des centaines d'années, être scribe, ensuite être écrivain ou être illustrateur ou être... C'était toutes sortes de métiers qui étaient remarquables. C'était pas donné à tout le monde déjà de savoir lire ou écrire, et par la suite, c'était pas donné à tout le monde de savoir faire de belles lettres, des enluminures et toutes sortes de choses. Et donc, tout le monde n'était pas sur un pied d'égalité. Mais maintenant, avec l'informatique, tout le monde peut faire une lettre nickel, impeccable, ou les... Voilà. Ça corrige même les fautes orthographe ou grammaire ou d'autres choses, si vous le voulez. Et donc, il reste encore des choses à faire, bien sûr, mais ça a amené beaucoup de choses. Mais là, nous sommes dans une période où cette chose n'existait pas encore développée à ce point. Donc, il dit, « Parce que je n'avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidais de m'inscrire en classe de calligraphie. C'est ainsi que j'appris tout ce qui concernait l'empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d'une typographie. C'était un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J'étais fasciné. » Rien de tout cela n'était censé avoir le moindre effet pratique dans ma vie. C'est là que ce qui est important. Sur le moment, il y a des choses, on ne voit pas à quoi ça peut servir. Il y a des gens qui refusent d'étudier la Bible, tout ce vieux livre, à quoi ça peut me servir. Mais nous avons l'expérience que des choses qui ont été écrites des milliers d'années, tout à coup deviennent pour nous actuelles et utiles. Et ce sont des façons dont Dieu nous guide dans nos choix quotidiens. Il était un peu dans cet apprentissage où il ne voyait pas le côté pratique. Pourtant, 10 ans plus tard, 10 ans, alors que nous concevions le premier Macintosh, cet acquis me revint et nous l'incorporâmes dans le Mac. Donc, pour ceux qui ne savent pas très bien, donc Steve Jobs, c'est celui qui a fondé la société Apple. Et donc, avec son collègue, et donc, ils ont créé un ordinateur, en fait, le PC, ordinateur portable, computer personnel, tout ce que vous voulez. Et donc, ils l'ont appelé le Macintosh et nous le réduisons à Mac d'habitude. Et leur emblème, c'est la petite pomme qui est légèrement croquée. Et donc, l'autre concurrent développeur d'informatique, c'est donc celui que nous connaissons sous Windows. Je simplifie. Hein. Alors, ce fut le premier ordinateur doté d'une typographie élégante. Si je n'avais pas suivi ces cours à l'université, le Mac ne posséderait pas une telle variété de polices de caractères, ni ces espacements proportionnels. Et comme Windows s'est borné à copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'en disposerait. Si je n'avais pas laissé tomber mes études à l'université, je n'aurais jamais appris la calligraphie. Et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas cette richesse de caractère. Naturellement, il était impossible de prévoir ces répercussions quand j'étais à l'université. Mais elles me sont apparues évidentes 10 ans plus tard. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a des choses que nous ne voyons pas tout de suite, immédiatement, mais des choix que nous faisons, 10 ans plus tard, ça peut être avoir un impact au-delà de ce que nous imaginons. Et il n'avait pas, lui, il s'était pas appuyé sur Éphésiens 3:20 comme nous pouvons le faire. Et Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Mais nous pouvons le faire. On ne peut prévoir l'incidence qu'auront certains événements de le futur. C'est après coup seulement qu'apparaissent les liens. Et là, je nuance un peu. Il dit, on ne peut pas prévoir si il y a des choses qu'on peut prévoir. Par exemple, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous vous associez avec quelqu'un, par exemple pour le monde des affaires, vous prenez un associé qui est malhonnête, si vous saviez que cette personne est déjà un peu louche ou qu'il avait déjà fait des escroqueries, etc., vous pouvez prévoir que ça va avoir des conséquences. Si pour les jeunes, ils s'associent avec des mauvais camarades, ça aura une influence sur leur vie. Si en tant que ministère ou en tant que chrétien, on s'associe avec des gens qui ne marchent pas avec Dieu, on sait que ça aura une influence. On ne voit pas toujours l'impact de tout ce que nous faisons, mais il y a des choses que nous pouvons voir. Mais lui, il dit, vous pouvez seulement espérer qu'ils joueront un rôle dans votre avenir. Donc, c'est important de réaliser que certaines choses peuvent avoir un impact dans l'avenir. Et il dit, l'essentiel, c'est de croire en quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Quelque chose, ça ne nous suffit pas, hein. Merci de votre réaction, qui est en fait une réaction de attends, il manque quelque chose là. Et effectivement, nous on peut pas s'en satisfaire, c'est pas l'essentiel de croire seulement en quelque chose. Parce que lui, il rajoute, c'est là que nous dévions un peu avec votre croire en votre destin, votre vie, votre karma. Le karma, c'est une notion de spiritualité hindoue, des choses comme ça. Il dit, peu importe, je l'ai souligné en rouge, là, peu importe. Non, pas peu importe. C'est essentiel de croire en quelque chose, c'est vrai, mais pas en n'importe quoi. On peut pas dire peu importe. Il dit, cette attitude a toujours marché pour moi, elle a régi ma vie. Donc, effectivement, les gens qui ne croient en rien n'accomplissent rien. Ça, c'est clair. On a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui pourtant ont poursuivi un objectif. Et on voit qu'ils sont sortis de la moyenne des gens et ils ont accompli les choses. Mais en vue de quoi? Ou qu'est-ce qu'il en reste? Et nous savons qu'il y a aussi un moment où une épreuve peut venir, si ce n'est l'épreuve finale, et qu'est-ce qui sera resté de leur œuvre? Il y a des choses qui disparaissent même avant que leur vie soit achevée. Donc moi je crois que c'est bon de croire en quelque chose, mais c'est mieux encore de mettre notre foi en Dieu. Pas seulement dans des choses un peu vagues, notre destin, notre vie, des choses comme ça. Pardon ?
La chance.
La chance. Oui, mais là c'est des gens peuvent poursuivre un objectif, mais il y a plus que ça. En tout cas, on voit qu'une attitude de croire en quelque chose, de poursuivre un objectif, ça marche. Et ça marche pour beaucoup de personnes. Donc, deuxième expérience qu'il veut nous partager. Pourquoi mon départ forcé d'Apple fut salutaire? Alors, Apple, comme je l'ai dit, en anglais ça veut dire la pomme, c'est le sigle de la marque. Il nous raconte. Ma deuxième histoire concerne la passion et l'échec. J'ai eu de la chance d'aimer très tôt ce que je faisais. Là encore, je souligne, moi je crois que ça c'est important, que nous aimions ce que nous faisons, notre activité. Beaucoup de gens sont esclaves, esclaves de quoi ? Pour survivre, il faut un job. Donc, quand on a un métier, on est content parce qu'on gagne un peu de sous. Mais vivre toute sa vie seulement dans l'esclavage du travail pour survivre, je crois que Dieu a mieux que ça pour nous. N'est-ce pas vrai ? Quand Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance », ça veut dire que quel que soit le travail que vous faites, vous devez être heureux dans cette activité. Heureux parce que je connais mon travail, parce que je sais à quoi ça sert, parce que je sais que ça a une valeur, ce que je fais. Et quelle que soit la nature de ce que je fais, mais je le fais avec toutes mes ressources, toute mon énergie, etc. Et de, que vous soyez maintenant patron ou employé, vous allez voir des fruits de ce travail. Et le premier fruit, ce sera la satisfaction. Satisfaction du travail bien fait, satisfaction de la journée écoulée, mais on peut prendre du repos et ne pas vivre le lundi matin pourvu qu'il soit vendredi, le matin pourvu que ce soit le soir, et pourvu que viennent les vacances, pourvu que vienne la retraite, et toujours vivre dans une espèce d'attente de « après, ça sera mieux ». Alors vous vivez jamais. Nous vivons et nous avons besoin de vivre dans le présent. Le passé est derrière nous, on ne peut plus rien y changer. Le futur ne nous appartient pas, on n'a que le présent à vivre. Donc, il aimait ce qu'il faisait. J'avais 20 ans lorsque Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et 10 ans plus tard, Apple était une société de plus de 4000 employés dont le chiffre d'affaires atteignait 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer un an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh. Et je venais d'avoir 30 ans. À 30 ans, il est multimillionnaire, il a une belle société, qui est une société mondiale, et donc, c'est alors que je fus viré. Il a été renvoyé. Comment peut-on vous virer d'une société que vous avez créée ? C'est bien simple. Apple, ayant pris de l'importance, nous avons engagé quelqu'un qui me semblait avoir les compétences nécessaires pour diriger l'entreprise à mes côtés. Et pendant la première année, tout se passa bien. Puis nos visions ont divergé, nous nous sommes brouillés, le conseil d'administration s'est rangé de son côté, et c'est ainsi qu'à 30 ans, je me suis retrouvé sur le pavé, viré avec perte et fracas. Et là, écoutez bien, la raison d'être de ma vie n'existait plus. J'étais en miettes. La raison d'être de ma vie. C'est pour ça que nous avons... Tout est dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même nous enseigne et il nous dit, et c'est tellement important pour moi et pour chacun d'entre vous, pour que vous le réalisiez dans Luc 13, attendez, on va le retrouver, non, Luc 12, cet homme qui était riche. Il leur dit cette parabole, verset 16. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? J'ai pas de place pour enterrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. » Vous voyez, ça c'est un but, un objectif. Il a une vision, il veut développer son entreprise, il veut grandir. Et il le fait. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc, pour le futur, on attend. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir profiter. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Et le verset clé de cette parabole est juste au-dessus, au verset 15. Le Seigneur Jésus dit, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Si on fait une photo instantanée, au moment de ses 30 ans, quand Steve Jobs est maintenant à la tête de cette entreprise qui a atteint plus de 2 milliards de dollars, on pourrait dire, « Voici l'image de la réussite. » Beaucoup de gens l'enviraient, diraient. Ça, c'est quelqu'un de formidable. Mais l'instant d'après, il est viré, il n'a plus rien du tout, sa vie est en miettes. et en plus avec tout ce que ça implique au niveau de son être intérieur. Il se pose des questions de quelle est ma valeur, qu'est-ce que je suis, est-ce que j'existe. Il dit la raison d'être de ma vie n'existait plus parce qu'elle était mal orientée. Ce n'est pas pour le critiquer ou parce que nous sommes jaloux que nous disons, mais nous écoutons le témoignage des expériences de cet homme pour les comparer à ce que la parole de Dieu nous dit pour dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas été. Ben là, pour nous, c'est évident. La raison d'être de ma vie ne doit pas être basée sur une réussite professionnelle seulement. Ça ne peut pas être. C'est un des éléments qui fait que nous, êtres humains, trouvons une satisfaction. Mais ce n'est pas tout. Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire. J'avais l'impression d'avoir trahi la génération qui m'avait précédé, d'avoir laissé tomber le témoin au moment où me le passait. C'était un échec public. Et je songeais même à fuir la Silicon Valley. La Silicon Valley, en Californie, c'est un endroit où on développe plein de technologies avancées. Puis, j'ai peu à peu compris une chose. J'aimais toujours ce que je faisais. Ce qui m'était arrivé chez Apple n'y changerait rien. J'avais été éconduit, mais j'étais toujours amoureux. Il fait un parallèle comme quelqu'un qui aurait été amoureux, et puis l'autre personne ne veut pas de lui, mais il était toujours amoureux. Ça veut dire qu'il aimait toujours. Il ne s'est pas laissé aigrir, même s'il est passé par toutes sortes de choses. J'ai alors décidé de repartir à zéro. Et pour nous, n'est-ce pas ce qu'on a chanté aussi dans un chant, un cantique d'autrefois, tu peux repartir à zéro avec Jésus. Même si tu as échoué dans ta vie auparavant, tu as échoué peut-être dans beaucoup de choses, mais avec Jésus, tu peux repartir à zéro. C'est ça qui est formidable. Pour lui, il fait son cheminement, lui. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé d'appel fut salutaire. Le poids du succès fit place à la légèreté du débutant, à une vision moins assurée des choses, une liberté grâce à laquelle je connus l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Pendant les 5 années qui suivirent, j'ai créé une société appelée Next, une autre appelée Pixar. Ça veut dire quelque chose, Pixar ? Et je suis tombé amoureux d'une femme exceptionnelle qui est devenue mon épouse. Pixar, qui allait bientôt produire le premier film d'animation en 3 dimensions, Toy Story, est aujourd'hui la première entreprise mondiale utilisant cette technique. Par un remarquable concours de circonstances, Apple a acheté Next et je suis retourné chez Apple et la technologie que nous avons développée chez Next est aujourd'hui la clé de la renaissance d'Apple. Donc il a réintégré Apple et a une nouvelle carrière. Et Laurine et moi avons fondé une famille merveilleuse. Tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été viré d'appel. Donc, une fois de plus, moi je dis, ce n'est pas une bonne chose d'être viré, de perdre la raison de sa vie, d'avoir sa vie en miettes, de ne plus savoir où il en était. Maintenant, avec du recul, il peut dire que c'est une bonne chose. Mais sur le moment, c'était certainement pas ressenti comme une bonne chose. Et lui, il a rebondi, il a été créatif. Il a de nouveau refait des nouvelles choses. Mais combien d'autres auraient baissé les bras et seraient déprimés, se seraient peut-être suicidés, auraient peut-être été amers pour le reste de leur vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, si t'es viré, eh ben c'est une bonne chose, sois content. Non, ce n'est que si tu sais réagir de la bonne façon dans les choses qui t'arrivent que tu pourras rebondir. Et lui, pour le moment, nous n'avons à aucun moment entendu qu'il mettait sa foi en Dieu ou quoi que ce soit. Mais il a eu des réactions qui sont conformes à celles de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir le titre de chrétien et agir comme un païen ou comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et on peut ne pas avoir cette relation avec Dieu, ne pas être enfant de la famille de Dieu et pourtant avoir certains comportements bibliques qui sont selon la parole de Dieu. C'est pour ça, des fois, on se demande, pourquoi cette personne réussit alors qu'elle ne croit pas en Dieu? Oui, mais elle applique un principe de la Bible et ça marche. Et à l'inverse, quelqu'un peut dire « je crois en Jésus », mais il va tout le temps parler négativement. « Oh là là, il n'y a rien qui marche, je vais être un malade, l'hiver arrive, ceci, cela, je réussis pas. » Vous pouvez avoir foi en Dieu pour votre vie éternelle et votre salut, et vous pouvez tout rater pour votre quotidien, parce que vous n'appliquez pas les principes de la parole de Dieu. Mais lui, donc, il y a des bonnes choses où maintenant il dit, il fait son analyse. Il dit, la potion fut horriblement amère, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois la vie nous flanque un bon coup sur la tête. Ne vous laissez pas abattre. Je suis convaincu que c'est mon amour pour ce que je faisais qui m'a permis de continuer. On pourrait dire oui, la Bible dit aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour, avec foi, avec passion. Par contre, ça ne nous choque pas quand on vous dit « la vie vous flanque un bon coup sur la tête ». Jean 14, 6 nous dit, Jésus nous dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lui, il ne donne pas un coup sur la tête pour abattre les gens. Donc, il faut bien préciser de quoi on parle quand on dit la vie. Moi, je dirais, parfois les circonstances de la vie nous donnent un coup sur la tête. Mais la vie en tant que telle, en tant que cadeau issu de Dieu qui lui-même est la vie, ne nous donne pas un coup sur la tête pour nous apprendre à vivre. Hein? De la même façon, j'ai jamais cassé un bras à mes enfants pour les corriger, leur apprendre une leçon. C'est des choses qui n'ont pas de sens. La Bible dit que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, donc votre Père Céleste aussi veut donner de bonnes choses à ceux qui s'adressent à lui. Alors écoutez bien, il faut savoir découvrir ce que l'on aime, qui l'on aime. Le travail occupe une grande partie de l'existence. Et la seule manière d'être pleinement satisfait est d'apprécier ce que l'on fait. Je sais que des fois, on n'a pas le choix. Comme lui, à un moment, on a entendu, dans les études, il a choisi des matières qui lui plaisaient et d'autres, il les a délaissées. Si on pouvait le faire, tous les enfants seraient d'accord. Mais le programme est ainsi fait qu'il y a des matières obligatoires, tout n'est pas en option. Et donc parmi ces matières, à moins que quelqu'un dise « j'aime pas du tout l'école » et soit réfractaire complètement à tout ce qui est instruction, mais sinon, on est obligé pendant un certain nombre d'années d'apprendre tant bien que mal des choses qui nous intéressent pas tellement. Mais à un moment donné, on doit faire des choix dans la vie. Donc faites les choix de découvrir ce que vous aimez vraiment et aussi qui vous aimez vraiment. Parce que les gens veulent être aimés. Et en voulant être aimé, on va vers n'importe qui, où on a de la sympathie ou un retour, etc. Mais on a besoin d'avoir des relations de qualité avec des gens. Beaucoup de gens disent « on a des amis ». On a des amis, mais on le dit un peu à la légère, avoir des amis. L'amitié, j'ai déjà donné la définition, mais je rappelle, dans son sens premier, c'est une âme partagée. Au niveau de notre âme, de notre volonté, de nos émotions, de nos raisonnements. On partage tellement de choses qu'on se sent proche. Alors on est vraiment ami. Un ami, c'est pas juste quelqu'un qu'on rencontre de temps en temps dans un, je ne sais dans quelle circonstance. Et donc le travail, bien sûr, certains voudraient ne pas travailler, mais il y a deux aspects. Il y a le travail à la sueur de notre front, la malédiction, suite à la chute de Adam et Ève dans le péché, mais il y a aussi l'activité. Dieu nous donne une activité. Avant la chute, l'homme avait déjà une activité. Il était le gardien du jardin de Dieu. C'était une activité. Il n'était pas dans un hamac toute la journée, dans le jardin d'Éden, à rien faire, à siroter un cocktail. Les gens ont une image pervertie du paradis. C'est ne rien faire. Quand on est en très grande activité toute l'année, nous avons besoin de temps en temps de rien faire pour notre équilibre, pas devenir fou. Mais ce n'est pas le but ultime de notre vie, ce n'est pas de rien faire. De la même façon qu'on ne sera pas assis sur un nuage pour l'éternité à jouer un peu de harpe. Ce n'est pas ça le destin que nous avons. Donc, le travail occupe une grande partie de l'existence, donc faites des choses que vous aimez faire. S'il y a des choses que vous devez faire, ben faites-les ou trouvez des moyens de les remplacer. Il y a des choses que on a toujours fait comme ça, mais qu'on n'a pas besoin de continuer de faire. Si vous voulez aller à la rivière pour laver votre linge, vous pouvez le faire. Mais on a aussi, ici, on a des lave-linges qui font le travail et la rivière n'est pas tellement propre. Donc, je pense qu'il y a des choses où nous pouvons évoluer. D'accord? Alors, sinon, continuez à chercher. Ne baissez pas les bras. C'est comme en amour. Vous saurez quand vous aurez trouvé. Et toute relation réussie s'améliore avec le temps. Alors continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Troisième expérience. Pourquoi la mort est la meilleure chose de la vie? Ah, je vous ai dit, hein, c'est lui qui raconte. Hein, c'est pas la Bible qui est précisée, mais quoique, nous avons quelqu'un dans la Bible qui a dit ça. Et qui? Et où? C'est l'apôtre Paul dans Philippiens 1:23. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc il a dit, la mort est la meilleure chose de la vie, mais seulement si on connaît Christ. Comme beaucoup de gens, j'entends quelqu'un qui est mort et ah, maintenant il n'a plus de soucis. Ça dépend où il est. S'il est en enfer, maintenant il a plus de soucis qu'il en avait jamais. Et s'il est auprès de Dieu, c'est vrai qu'il n'a plus de soucis. Mais c'est aussi simple que ça. Mais voyons son histoire à lui. On a quand même des choses à apprendre encore. Ma troisième histoire concerne la mort. À l'âge de 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. Si vous vivez chaque jour comme s'il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. Ben oui, il ne faut pas être très philosophe pour être d'accord avec ça. Mais ça nous fait penser à certaines choses que nous déclarons aussi ici. Il faut vivre intensément le présent. On ne sait pas si demain nous sera donné. On ne peut pas reporter toujours certaines décisions. On ne peut pas reporter toujours le fait de prendre une décision pour Jésus, de vraiment lui appartenir et qu'il devienne notre Seigneur et Sauveur. Il y a un rabbin qui disait toujours, il faut se convertir un jour avant sa mort. Et comme on sait jamais quand ça sera, alors ça doit être aujourd'hui. C'était une autre façon de rendre les choses. Faut pas le reporter, on ne sait pas. On peut pas reporter non plus, plus tard je servirai Dieu, plus tard je donnerai un sens à ma vie, plus tard. Non. Et donc cette phrase, elle est restée en ma mémoire et depuis, il dit pendant les 33 années écoulées, je me suis regardé dans la glace le matin en me disant, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j'aimerais faire ce que je vais faire tout à l'heure? Oui, c'est toujours... L'éternité donne un sens à notre vie. Ça remet les choses en place. Ça ne veut pas dire que nous n'allions jamais prendre de repos ou jamais avoir un moment pour vous distraire ou quoi que ce soit. Mais ça remet les choses à leur juste place. Si la réponse est non... Pendant plusieurs jours à la file, je sais que j'ai besoin d'un changement. Vous savez, cette définition de la folie qu'on a dit, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. La science nous dit exactement l'inverse. Une loi physique, c'est quoi? C'est qu'on reproduit toujours la même expérience et ça donne toujours le même résultat. Et dans la vie, les gens ne changent rien, mais ils attendent un résultat différent. Mais pourquoi? Si vous voulez que quelque chose change, il faut qu'il y ait un changement à un moment donné. Si vous vivez que pour le diable, à un moment donné, il faut prendre une décision pour Dieu. Sinon, rien ne changera. Vous allez continuer de vivre l'enfer. Et l'enfer qu'on vit ici sur terre n'est encore rien à côté de ce qui attend certaines personnes pour l'éternité. C'est quand même des choses importantes, essentielles. Donc, avoir en tête que je peux mourir bientôt, et ce que j'ai découvert de plus efficace pour m'aider à prendre des décisions importantes. Là encore, pour lui, c'est ça sa réaction. Pour d'autres personnes, si vous lui dites « tu vas mourir bientôt », ça va les détruire complètement. Ils diront oh, « c'est fini, je suis découragé, déprimé, je ne peux plus rien faire ». Et certains diront « alors s'il me reste peu de temps, je vais faire un maximum encore ». C'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est des dogmes comme ça, tout est écrit, c'est une bonne chose que vous sachiez que vous allez mourir bientôt. Parce que certains peuvent réagir là-dedans et d'autres, ça peut les détruire. Mais pour lui, voilà ce que ça a produit. Parce que presque tout ce que l'on attend de l'extérieur, nos vanités, nos fiertés, nos peurs de l'échec, s'effacent devant la mort, ne laissant que l'essentiel. Là encore, un petit parallèle dans la Bible. L'Ecclésiaste, au chapitre 7, nous dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Donc là encore, c'est un raisonnement pour dire « Tant qu'on est dans les maisons de fête, qu'est-ce qui se passe ?» On oublie les choses essentielles. On ne pense pas à l'éternité, etc. Mais quand on est face à une situation de deuil, on ne peut plus dire « Oh, t'en fais pas, demain ça ira mieux. » Ben non, parce qu'il est là, il est mort, et il ne reviendra plus. Et alors on pense « Ah oui, mais moi aussi un jour, j'irai dans cette direction. Et j'irai où ? Et dans quelles conditions ?» Se souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d'éviter le piège qui consiste à croire que l'on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre son cœur. Là encore, moi, ça me fait penser à des choses. Hébreux 4 nous dit « Tout est nu et découvert devant celui devant à qui nous devons rendre compte. » Et encore, Jésus disait que si quelqu'un perd sa vie, il la gagnera. Mais beaucoup de gens essaient de conserver des choses et en fait, après, ils perdront tout et l'essentiel. Donc pour lui, dans son cas, il y a un an environ, on découvrait que j'avais un cancer. À 7h du matin, le scanner montrait que j'étais atteint d'une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce que c'était le pancréas. Les médecins m'annoncèrent que c'était un cancer probablement incurable, que j'avais au maximum pour 6 mois. Mon docteur me conseillait de rentrer chez moi, de mettre mes affaires en l'ordre, ce qui signifie « Préparez-vous à mourir ». Ce qui signifie dire à ses enfants en quelques mois tout ce que vous pensiez leur dire pendant les 10 prochaines années. Ce qui signifie essayer de faciliter les choses pour votre famille. En bref, faire vos adieux. J'ai vécu avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard, dans la soirée, on m'a fait une biopsie, introduit un endoscope dans le pancréas en passant par l'estomac et l'intestin. J'étais inconscient, mais ma femme qui était présente m'a raconté qu'en examinant le prélèvement au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, car j'avais une forme très rare de cancer du pancréas, guérissable par la chirurgie. On m'a opéré et je vais bien. Donc il est mort cette semaine du cancer, mais il a quand même eu une prolongation de plus de 6 ans par rapport aux 6 mois qu'il attendait. D'accord ? Ça c'est juste pour remettre dans le contexte, hein. C'était un message qu'il avait laissé il y a plus de 6 ans. Ce fut mon seul contact avec la mort. Et j'espère qu'il le restera pendant quelques dizaines d'années. Eh bien non, ça n'a tenu que 6 ans de prolongation. Après cette expérience, je peux vous le dire avec plus de certitude que lorsque la mort n'était pour moi qu'un concept purement intellectuel, personne ne désire mourir. Je m'explique. Donc, on parle de la mort, comme ça, etc. Mais quand ça vous concerne personnellement, quand vous avez quelqu'un qui est très proche, qui est gravement malade, ou que vous, on vous donne un diagnostic comme ça, alors vous vous rendez compte de certaines choses, que personne ne désire mourir. Même ceux qui veulent aller au ciel n'ont pas envie de mourir pour y parvenir. Pourtant, la mort est un destin que nous partageons tous. Sauf si Jésus revient pour nous chercher et que nous serons transformés en un clin d'œil. Et ça, c'est une espérance qui fait que nous sommes des gens tout à fait particuliers. Mais sinon, chacun d'entre nous, effectivement, doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23. Personne n'y a jamais échappé. Ben oui, Jésus non plus. D'abord, il y a passé. Ensuite, il a été ressuscité. Nous savons pourtant que nous avons Enoch et Élie au moins qui ont échappé. Mais lui, bon, il reste dans un point de vue humain. C'est bien, lui il dit, c'est bien ainsi car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C'est là que nous ne le suivons pas du tout, puisque la Bible nous dit que la mort c'est un ennemi. Et le dernier ennemi, la mort, sera vaincu par Jésus qui est le prince de la vie. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est bien ainsi. Il ne faut pas qu'on aligne nos pensées parce que c'est le grand Steve Jobs qui a parlé que tout ce qu'il dit c'est formidable. Non, il y a des choses que nous pouvons nous inspirer de sa vie et d'autres, eh ben, ne peut pas l'accepter. C'est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l'ancien pour faire place au neuf. En ce moment, vous représentez ce qui est neuf, mais un jour, vous deviendrez progressivement l'ancien et vous laisserez la place aux autres. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est la vérité. Donc, nous devons être prêts pour les changements et les transformations. Pensez encore à ceci. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Vivez pour vous-même. Pour vous-même, pas dans le sens égoïste, mais pour votre vie, ce que Dieu a prévu pour vous et ce que vous aimez. Pas ce que votre papa, votre maman auraient voulu pour votre vie, ou ce que d'autres attendent de vous, mais ce que vous voulez. C'est votre vie, et vous qui devez décider ce que vous allez en faire. Ne soyez pas prisonniers des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Là, nous pouvons être que d'accord. Romains 8, 14 nous dit que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le témoignage intérieur. Nous avons une façon plus grande d'être conduit à l'intérieur de nous que les gens. Pourtant, lui, c'est quelqu'un visiblement qui est créatif, qui a une intuition, qui essaie de suivre une voie intérieure. Il le dit, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Mais d'autant plus pour nous chrétiens, qu'ils avons été renouvelés par la parole de Dieu. L'un et l'autre, cœur et intuition, oui, savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Je suis assez proche de lui pour certaines choses qu'il dit ici. Et donc, pour terminer, à la fin, il cite un magazine qui avait été fabriqué dans les années, il y a très longtemps, années 60, et à un moment, ça s'appelait le Whole Earth Catalogue, et il y avait là une belle photo, et il y avait écrit en dessous un slogan, et il était écrit « Soyez insatiable, soyez fou ». Et donc, ça c'était aussi des paroles qui l'ont poussé à être créatif, à aller de l'avant, et j'ai eu ces deux pensées par rapport à leur nous, ce que la Bible et ce que Dieu voudrait nous dire. Jean 7, 37, et Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si vous n'avez plus soif, si vous n'avez pas soif des choses de Dieu, vous n'allez pas venir à lui, mais vous ne recevrez pas des sources d'eau vive qui jaillissent jusque dans la vie éternelle sous forme de fleuves d'eau vive. D'accord ? Donc, vous avez besoin d'entretenir votre soif des choses de Dieu. Comment vous aurez soif? Si vous ne prenez jamais le temps d'être dans sa présence, au bout d'un moment, vous allez vous laisser détourner. Donc, entretenez, cultivez cette soif et dites à Dieu que vous n'en avez jamais assez de lui, dans les deux sens du terme et dans les bons sens du terme. Et enfin, soyez fous. Fous, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il faut des fois faire des choses qui semblent fous à la raison, au naturel et aux gens qui raisonnent. Mais c'est seulement une folie de Dieu. C'est pas une folie, point. Je vous demande pas de faire des choses insensées. Je vous demande de laisser un peu de la folie de Dieu agir en vous, parce que sinon on ne changera jamais ce monde. Et donc, c'est ce qu'il souhaitait, en fait, à ses étudiants à qui il s'adressait. Et donc, c'était Steve Jobs qui vous a adressé ce message. Il a été corrigé par la parole de Dieu. Il est né en 55, il est mort en 2011. Et donc, pour vous-même, pour chacun, je dirais, regardez les paroles qui vous accompagnent. Quelles sont ses paroles? Lui, il a cité des slogans, des choses qu'il a lues ici, vues là-bas. Mais nous avons des paroles de vie ici. Qu'elles puissent nourrir votre quotidien constamment. Qu'elles soient gravées en vous. À l'image de Jean-Baptiste, si j'avais le temps, on le prendrait maintenant pour parler de Jean-Baptiste. Mais rappelez-vous dans Jean 1, on lui a demandé « Qui es-tu ? Que dis-tu de toi-même » Posez-vous ces questions. « Qui est-ce que je suis ?» Comme Steve Jobs regardait son miroir, il dit « Regarde le miroir, dis qui je suis ? Qui je suis en Christ ?» Dites ces choses. Dites « Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. » Et chaque fois que je lis la parole de Dieu, je proclame ardiment, mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir. Vous voyez cette intuition, cette chose à l'intérieur, ce témoignage intérieur, la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et nous ne serons plus jamais les mêmes. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.